Bon, tu sais, John étant absent, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et que, voilà, il, médicaments pas trop adaptés à lui, et il est vraiment assommé, il dort. Donc, et cette semaine, j'ai écouté un message de Daniel Sten, qui est mon professeur d'initiation à l'hébreu. Donc, voilà, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, ça fait plus de 2 ans. La pandémie et puis bon les activités, les choses qui m'empêchent d'aller voilà, il faut faire des choix hein. Donc c'est le choix que j'ai fait, mais j'écoute régulièrement ces messages et ils sont toujours inspirants. Daniel il va toujours prendre la parole et il va s'inspirer vraiment de la Torah. Donc il va aller chercher les mots dans les textes hébraïques. Donc il faut savoir qu'un mot hébraïque a plusieurs sens et que quand on fait une traduction en français ou dans une autre langue, on fait des choix et on perd une partie du mot et des sens qui peuvent y avoir derrière une parole qui est donnée par Dieu. Donc c'est un message qui est essentiellement, alors c'est constitué de plusieurs enseignements, mais je vais me garder que sur la parole et sur les fêtes de l'Éternel. Ça m'a inspiré parce que depuis plusieurs mois, je souhaite parler de l'Apocalypse, des choses de la fin des temps. Et en fait, c'est extrêmement compliqué. J'entends toujours des orateurs qui sont formidables. Mais ils disent pas la même chose les uns les autres. Ils ont parfois même prédit des dates et puis bon, ben ils sont passés à côté quoi. Mais donc c'est très compliqué. Et moi qui suis pas un enseignant qui simplement reçoit les choses et doit les retransmettre, bon ben c'est compliqué. Par contre, il y a des choses qu'on connaît dans la Bible, des choses qui nous sont dites pour la fin des temps. Et c'est là-dessus qu'on peut parler. Et sans pouvoir dire, mettre un mot, tel pays va faire telle chose, etc. Non, on peut avoir une analyse des choses et puis voir un peu comment les choses arrivent. Parce que, voilà, les orateurs disent beaucoup de choses, mais c'est parfois à côté. Voilà, donc le Seigneur nous a donné quand même, Dieu nous a donné, à travers le peuple hébreu, 7 fêtes. Donc ça, c'était au moment de l'ancienne alliance, hein, cette fête qui ont été données par l'Éternel. Et elles correspondent, ces fêtes, à l'horloge biologique, on va dire, de la terre. C'est la moisson, on va semer, on va récolter, ça correspond vraiment à une période, c'est très concret en fait, hein, c'est vraiment très concret. Voilà. Alors, je vais peut-être être un peu décousu, mais bon, c'est pas toujours évident. Il y a tellement de choses qui sont dites là-dedans. Voilà. Il faut savoir que les fêtes, une chose que j'ai apprise, en hébreu, on pourrait dire répétition. Alors répétition, c'est formidable parce que chaque année on fait des choses et on répète des choses et de nouveau on les répète chaque année. Donc il y a la Pâque, on va préparer la Pâque, mais on fait une répétition. Et pourquoi c'est une répétition? On a dans Colossiens 2:17 que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Alors ça, c'est intéressant parce que l'ombre des choses à venir, quand il y a une ombre, c'est qu'il y a quelque chose qui de réel, qui masque le soleil et qui projette donc une ombre. Donc voilà, il y a quelque chose. Dans ces répétitions, il y a une ombre qui est portée sur ces répétitions et un jour, ce réel sera là. Donc, on a le premier temps des fêtes, hein, c'est donc c'est la Pâque. La première période, donc on fait disparaître le vieux levain afin que, ça c'est la parole, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, effectivement, quand Christ a été crucifié, il a été comme un agneau sacrifié. Il faut savoir, j'en parlais la semaine dernière, que Jésus est arrivé sur un ânon 4 jours avant à Jérusalem. Il est arrivé à Jérusalem et il s'est présenté à Jérusalem. Il est rentré, il est sorti, il est allé au temple, il est allé voir un tas de monde, il a mangé, et il s'est présenté pendant 4 jours et il a été arrêté. Et dans cette période où il a été torturé, Ponce Pilate a dit: je ne vois pas dans cet homme des défauts, il n'a pas de tache, il n'a pas de, voilà, il n'y a aucun défaut, il n'a pas péché, il n'a pas, voilà, pourquoi le condamner? À l'époque, à Pâques, quand on va sacrifier un agneau, c'est la tradition, on avait l'agneau qui arrivait 4 jours avant à la maison et on le présentait à la famille, aux amis, pour vérifier que cet agneau n'était pas sans défaut. Et s'il avait un défaut, il fallait le rejeter, prendre un autre agneau, et arriver le jour du sacrifice, les prêtres sacrifiaient l'agneau pour lever le péché. Enlever le péché. Alors c'était pas enlever, c'était couvrir. Il y a une différence entre enlever le péché et couvrir. Donc pendant une année, cet agneau allait couvrir le péché des personnes, de la famille. Voilà, c'était une couverture. Jésus est arrivé, il est mort et il a enlevé le péché. C'était l'agneau parfait. Et ça, c'est, on parlait des ombres, c'est-à-dire l'agneau que les gens sacrifiaient, c'était les ombres, c'était la répétition de ce qu'on allait faire. Et quand Jésus est arrivé, les choses se sont réalisées. Première fête, fête de Pâques. Ensuite, on avait la fête. Alors, c'était la fête. Hop. Faut pas se tromper, hein. La fête des pains sans levain. Donc, la fête de pains sans levain, c'est. Le levain, ça représente quelque chose d'important pour la pâte, parce que ça fait monter et puis ça fait du bon pain. Mais pour, au moment de Pâques, le fait de faire ce pain sans levain, c'était de dire: le levain fait monter la colère. Le levain en hébreu, ça veut dire colère aussi. Donc en fait, c'est symbolique. On enlève le levain, on enlève la colère. Et donc, voilà, pendant ce temps, pendant cette période-là, voilà, pas de levain. Et Jésus était sans péché. Pas de levain en lui. Aucun péché. Pas de colère. Et donc, au moment où Jésus est mort, il a pris le péché de chacun d'entre nous, mais à la croix, il a dit: tout est accompli. Et donc, comme tout est accompli, le péché est éliminé de lui. Et il est mis au tombeau sans péché, sans levain. Deuxième fête qui est passée. C'était une fête symbolique, répétition. Et Jésus est mort, enterré, enfin pas enterré, mais mis au tombeau, sans péché, sans levain. Deuxième fête, elle est accomplie. L'important, c'est les choses qui arrivent et qui sont faites, terminées. Troisième fête. Troisième fête, c'est la fête des semailles. Donc, en fait, Tout ça, ça se déroule vraiment en très peu de temps, hein. En une semaine de temps. Vous avez la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices qui se déroule très rapidement. C'est presque un ensemble. Et donc la fête des prémices, c'est on va les prêtres aller dans des endroits particuliers, prendre les premiers germes, les prémices de ce que la terre allait produire. Et on prenait les gerbes et on les agitait de droite à gauche, comme ça, de façon à bénir et puis à remercier Dieu pour ses prémices qui arrivaient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Alors, on voit ça, il y a un texte. Hein. Je vais essayer de le retrouver. Alors... Matthieu 27, 51-53. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent dans un grand nombre de personnes. Alors, c'est la troisième fête qui est accomplie. On va agiter les prémices de droite à gauche. Jésus, le premier ressuscité, mais ensuite, on va avoir ces morts qui arrivent et qui se baladent dans la ville et qui sont les prémices des ressuscités. C'est étonnant. La parole nous montre que, voilà, les fêtes s'accomplissent. Dieu nous fait des répétitions, mais la parole s'accomplit. C'est surprenant. Vous avez ensuite la seconde période. Donc, c'est la fête des semailles, Shavuot. Donc on a dans Lévitique 23, de 15 à 7, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la germe pour être agitée de côté de droite à droite, de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Cette fête avait lieu 50 jours après la fête des prémices. En d'autres termes, 7 semaines après, on l'appelait la fête des semaines. Shavuot. Donc on y arrive là. On arrive bientôt à ces 50 jours, on y arrive bientôt. Et en ce qui concerne ce moment-là, on voit que c'est aussi une fête qui s'est déroulée. C'est recevoir l'Esprit Saint. C'est ce moment où Dieu, il souffle, il arrive, on entend un bruit qui est fort, un souffle, des flammes qui arrivent sur les gens qui étaient là dans la chambre haute. Ils étaient une centaine de personnes et ils reçoivent l'Esprit Saint. Ils sortent et ils parlent des langues qu'ils ne connaissaient pas. Les gens qui étaient dehors, qui viennent voir parce que ils ont entendu du bruit, il s'est passé quelque chose, et ils s'aperçoivent que les gens parlent des langues différentes, mais de leur dialecte. Et la parole s'accomplit en disant aussi que je mettrai dans votre cœur mes lois. Et l'Esprit Saint est rentré en eux, et les lois sont rentrées en eux. C'est l'Esprit Saint qui les guide. Voilà. Alors ça, c'est... Donc, ces fêtes sont passées. Il n'y a plus de... Enfin, on les refait, c'est normal. Mais on sait que Jésus les a appliquées, les a faites. Ensuite, vous avez la troisième période des fêtes, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. Alors, Lévitique 23, 23 à 35, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations et vous aurez une sainte convocation. Vous vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être fait pour votre expiation devant l'Éternel votre Dieu. Et ça, c'est important. Toute personne qui ne s'illuminera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui ne fera pas ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ça sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis, le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant ces sept jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Bon, c'est un peu long, mais ces fêtes que je viens de vous exprimer ne sont pas réalisées. On est encore dans cette période de répétition. Donc Israël font ses fêtes en répétition. Mais il faut être attentif, nous chrétiens, à quel moment sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans ces temps qui arrivent où l'ombre ne sera plus une ombre, mais sera réelle? C'est-à-dire que Dieu sera sur terre et va agir comme il l'a fait avec Jésus au moment de la crucifixion, et tout ce qui a déroulé après. Voilà. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps. C'était simplement un partage que je voulais faire sur la parole du Seigneur et l'importance de ces fêtes, des fêtes de l'Éternel, qu'on peut appeler répétition. Et voilà, on est dans ces périodes. Il nous reste encore des fêtes qui ne sont pas réalisées, mais qui sont en répétition. Voilà. Donc Israël pour nous est important parce que eux ils ont gardé ces fêtes. Nous on les a pour partie perdues. Mais voilà, on doit avoir un œil sur ce qui se passe et de comprendre un petit peu que voilà, c'est un peu l'horloge de ce monde. Ces temps arrivent et il faut savoir à quel moment ces choses vont se faire. Alors, est-ce que c'est important de savoir comment les choses vont arriver? Je pense que non. Ce qui est important, c'est que vous soyez, nous soyons, debout devant notre Seigneur quand il arrivera. Et debout, ça veut dire être debout, quoi. On n'est pas de petits chrétiens à moitié. Non, on est des gens qui croyons à la parole de Dieu, qui la proclamons, qui, voilà, quand il y a une adversité, on l'affronte. Et c'est ça. Et je pense que notre Seigneur, il veut nous préparer, il nous demande à ce qu'on soit prêt. Voilà, soyez pas une épouse endormie, soyez une épouse réveillée. Alors chacun d'entre nous, on le fait pour nous-mêmes, notre Église, on doit le faire pour notre Église, et pour après, beaucoup plus large, on doit être conscient et faire attention à ce qui se passe. Et donc, il est important de connaître la parole, de ce qui va se passer, de comprendre exactement comment les choses se passent, c'est pas grave, mais voilà, d'être dans son temps et d'être prêt et de dire, Seigneur, oui, on t'attend. Seigneur, on t'aime. Seigneur, on veut te... Voilà. On t'attend. Hein? Oui, tout à fait. Voilà, il faut prier. C'est exactement. Tu avais dit aussi un... Veiller et prier. Voilà, c'est tout à fait vrai, c'est ça. Il en parle d'ailleurs dans son enseignement. Hein. Veiller et prier. C'est ça. C'est ça. Mais il y a aussi une démarche de cœur. Hein. Il y a une démarche de cœur. C'est le premier moteur. Le premier moteur, c'est le cœur qui va nous faire avancer et de dire, voilà, Seigneur, c'est, même si on a des défauts, mais Seigneur, j'ai mon cœur pour toi. Et ça, c'est tellement important de... Après le reste, l'Esprit Saint, il va nous conduire aussi. Si vous avez un cœur pour Dieu, si vous avez un cœur pour Jésus, l'Esprit Saint vous conduira aussi au bon endroit. Hein, voilà. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tout ça. Alors, je vais prier. Et puis, voilà, je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre vraiment tous nos absents, nos malades dans cette prière. Seigneur notre Dieu, nous te demandons dans ces temps qui arrivent et dans ces quatre fêtes-là qui ne sont pas encore terminées, Seigneur, nous te demandons vraiment que tu nous éclaires, que tu nous fortifies, que tu renouvelles notre intelligence et que nous soyons debout quand tu seras là. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais aujourd'hui pour nos malades, pour les guérisons que tu vas faire, pour les dons que tu vas nous donner. Tu as besoin d'équiper ton Église, Seigneur, pour que nous puissions être lumière du monde. Merci, Seigneur. Ouais, gloire à toi. Amen.